Stephen King aime Los Angeles, Stephen King aime Raymond Chandler, Stephen King a écrit La dernière affaire d'Humney et Rob Bowman l'a adapté. Bonjour et bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris comme d'habitude, salut.
Salut.
Ça va?
Bah bien et toi?
Ouais ça va, c'est pas la meilleure étape qu'on ait eue, on va pas se mentir. Hein.
Non mais c'est pas la pire non plus.
Mais donc je propose qu'on se lance tout de suite dans la dernière affaire du Humney.
Eh bien allons-y.
Comme d'habitude nous allons spoiler la nouvelle et son adaptation, donc si vous ne voulez rien en savoir, bah arrêtez-vous ici, allez lire la nouvelle et regardez l'épisode de Rêve et Cauchemar, ce sera pas bien long.
Nouvelle qu'on peut aussi trouver dans Rêve et Cauchemar du coup.
Et revenez nous voir ensuite. C'est parti. La nouvelle nous raconte l'histoire d'Humney, un détective typique de roman noir, qui voit son monde se modifier brutalement parce que tous les gens qui l'ont entouré par le passé disparaissent. Le livreur de journaux aveugle qui venait tous les jours à gagner au loto, sa secrétaire en a marre de lui et elle s'est barrée, le garçon d'ascenseur a un cancer et va bientôt mourir, il doit arrêter son métier, et tous en partant révèlent le mépris qu'ils avaient pour Humney. Et il reçoit alors dans son bureau un nouveau client, Samuel Landry, qui lui apprend qu'il est son auteur, et que donc Humney est un personnage de roman noir depuis tout ce temps. Le fils de l'auteur est mort d'une maladie, sa femme s'est suicidée suite à ça, et lui-même est atteint d'un zona chronique très douloureux, et donc il en a marre de cette vie, et il veut échanger sa place avec son personnage pour vivre dans le monde idéal de Los Angeles, pendant que son personnage ira dans le monde réel de la réalité véritable.
Un personnage qui aurait pu donc être joué par Pierre Richard, vu la chance qu'il a.
Ça aurait pu être rigolo. Ou par Jean-Paul Belmondo en mode le magnifique.
Ah, j'imagine bien Belmondo qui rentre dans, dans son cabinet au début, crac crac boum boum j'arrive.
La nouvelle elle commence comme un pastiche des romans de Raymond Chandler et King cite aussi Ross McDowell, dont King déplore le succès moindre et effectivement moi je connaissais même pas de nom McDowell. Ce sont des romans noirs qui ont beaucoup marqué King dans sa jeunesse. Le nom Humney, d'ailleurs, comme c'est dit dans la nouvelle, est emprunté au nom d'un personnage dans Playback de Chandler, et il y a pas mal d'autres hommages au fur et à mesure de la nouvelle, qui sont tous admis d'ailleurs, puisque Landry les liste à un moment. King dit que de tout le recueil Rêve et Cauchemar dans lequel la nouvelle est publiée, c'est sa préférée, et c'est une nouvelle qui n'a été publiée que dans Rêve et Cauchemar. Elle date de 93, et contrairement à beaucoup de nouvelles de King, elle n'a pas été dans un magazine avant. Sinon, bah, on sait pas grand-chose de cette nouvelle, comme souvent ça va être une partie assez courte, donc on va pouvoir directement en passer à nos avis. Donc Christopher, qu'est-ce que t'as pensé de la dernière affaire d'Humney ?
La dernière affaire d'Humney, c'était pas désagréable à lire, c'était pas non plus forcément extraordinaire à lire, c'est une nouvelle plutôt banale, qui a un postulat de départ certes original, mais qui sent quand même beaucoup l'inachevé.
Ouais, je suis moyennement d'accord, pour le coup, je trouve que la nouvelle tient vraiment bien la route. Il y a un aspect important de la nouvelle pour King, qui est l'aspect pastiche de Chandler, qui ne m'a pas touché dans la mesure où je n'ai jamais lu de Chandler, donc je suis incapable de dire si c'est de qualité en tant que pastiche. Mais quand même, il y a tout le côté un peu film noir, roman noir, qui dégénère dès le début, parce que la nouvelle attaque tout de suite avec son univers qui se modifie, il n'y a pas du tout d'installation, contrairement à ce qu'on aura dans l'adaptation. Moi, c'est une nouvelle que j'aime bien. Je trouve que la confrontation avec son auteur marche bien et que Landry arrive à être un peu touchant de par son histoire, la manière dont il la raconte. Ça finit assez brutalement, mais c'est pas non plus inintéressant. Encore une fois, c'est assez lié au genre, avec le personnage qui reste finalement un personnage de roman noir, même une fois dans la réalité. Je passe un bon moment en la lisant. C'est pas extraordinaire, mais j'aime bien.
Oui, voilà. Mais en fait, c'est ça. C'est ce que j'entendais par « c'était pas désagréable à lire ». Je l'ai lu d'une traite. Parce que ça se lit bien, mais je sais pas, ça, le délire de l'auteur qui rentre dans son œuvre, qui la modifie à l'intérieur pour prendre la place de son personnage principal, c'est super original, et justement j'aurais bien voulu que ça soit développé de manière un peu plus ample. Alors après ça aurait nécessité un format beaucoup plus long, qu'une nouvelle, en plus nouvelle qui est déjà plutôt conséquente, parce qu'elle fait une bonne soixantaine de pages, même un peu plus.
Ouais.
Je sais plus combien exactement, mais bref, elle est quand même assez conséquente. Mais je sais pas, je trouve que ça se perd un petit peu dans pas mal de détails, et voilà, c'est pas... Avec le postulat de départ, c'est pas ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu en voir plus, en fait.
Bah finalement, c'est vrai que l'échange, ça l'exploite pas du tout. C'est... L'échange se fait, et la nouvelle se termine peu de pages après, quand Omné dit qu'il s'est quand même fait à sa vie dans le monde réel, et qu'il va se venger, qu'il va trouver moyen de reprendre sa vraie place.
C'est ça, et par contre, la conclusion en elle-même est plutôt chouette, et c'est une conclusion à la King, hein. C'est une conclusion vraiment... En demi-teinte, ni bonne ni mauvaise, quoi.
Oui. J'aime bien les discussions que Omné a avec ses différents interlocuteurs, donc surtout le garçon d'ascenseur et le livreur de journaux, parce qu'elles sont assez longues, et ça montre bien un Omné qui refuse tout changement, mais qui n'a aucune explication pour ça. Il s'est jamais interrogé sur pourquoi il y a cette routine qui s'est installée, alors qu'effectivement elle est assez improbable. Et ça montre bien que c'est un personnage de roman, en fait. Quand on apprend la raison, on comprend son comportement passé.
Et ça, c'est bien développé aussi après, quand il est dans le monde réel, et qu'il découvre du coup la fin, les besoins élémentaires de l'homme, quoi, en fait,
oui.
Simplement. C'est plutôt bien amené. C'est pas amené de manière trop dégueulasse, parce que je l'ai déjà évoqué, King, il a une petite passion pour le pipi et le caca, quand même, souvent.
Oui.
Et là, ça va. C'est amené de bonne manière, en fait. C'est pas
c'est
dégueu.
C'est une nouvelle, hein. Il avait pas le temps de faire une Dreamcatcher et de passer 10 pages à décrire du caca.
Voilà, c'est ça, ni des proutes, bon, ça va. C'était une nouvelle sympathique, mais je me relèverai pas la nuit pour la lire.
Moi, des nouvelles qu'on a lues, ça fait plutôt partie du haut du panier.
Ah bah par contre, oui.
Moins que 1408, quand même, parce que
oui, 1408, voilà.
Je la trouve particulièrement bonne. Mais c'est mieux que d'autres nouvelles qu'on a lues, j'ai anticipé sur le classement. Mais...
Oui, voilà, si tu veux, si on peut anticiper sur le classement, oui, elle est bouffe vraiment supérieure, déjà aux Enfants du Maïs et même aux Dentiers Claqueurs. Hein.
Ouais. Donc voilà, c'est un bon moment. On retrouve en plus ce thème très familier de King, de la relation entre l'auteur et son œuvre. C'est quand même quelque chose qu'il a très souvent traité. Je sais pas s'il y a une volonté consciente d'évoquer Conan Doyle, mais le côté l'auteur jaloux de son personnage, ça m'y a un peu fait penser,
oui.
Moi. Surtout que dans le recueil, elle suit une nouvelle pastichant Sherlock Holmes. Mm. Et puis pareil, il y a ce thème de la... Enfin, de l'irréel, qui est une protection contre le monde réel, qui est très récurrent dans son œuvre, surtout dans l'histoire de Lissi, ça revient beaucoup. Donc ça reste une nouvelle très caractéristique de King, pour le coup, malgré le pastiche de Chandler.
Oui, bah oui, on retrouve vraiment tout ce qui fait King dès qu'il parle, en fait, d'auteur, tout simplement. Bah, d'ailleurs, c'est rigolo, on y reviendra dans la version adaptée, mais ils ont fait en sorte que le personnage ressemble un petit peu à King.
Oui.
Il a une coupe de cheveux qui lui ressemble, il a des petites lunettes comme lui, voilà, il y a un lien de physionomiste qui se fait, en fait. C'est rigolo.
Et puis, pour le coup, je trouve intéressant qu'il ait gardé le ton roman noir tout du long, même dans le monde réel, encore une fois.
Mm.
Il garde ce style-là vraiment tout le temps. Et je trouvais ça sympa, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit plus instinctif, à ce que dans le monde réel, on ait un style plus normal, et finalement, non.
Ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, c'est la confrontation entre les deux.
Oui.
Quand ils sont dans leur bureau et que, en fait... Son auteur anticipe tous les faits et gestes, parce que tout simplement c'est lui qui les écrit par avance, donc forcément, dès qu'il voit que Omni veut se rebeller, hop, il dicte rapidement à son logiciel de texte vocal. Je commence à avoir les jambes qui flagellent, je me sens pas bien, et hop, du coup Omni s'écroule sur son fauteuil.
Bah, il anticipe pas absolument tout, il y a un moment il s'inquiète parce que Omni essaie de l'attaquer et l'auteur réagit à temps. Mais Omné précise qu'il a un instant d'inquiétude, il a lu l'inquiétude dans les yeux de l'auteur, donc sa création lui échappe un peu.
C'est ça.
Donc ça, ouais, c'est plutôt sympa. Après, voilà, c'est pas non plus une nouvelle sur laquelle il y a 100 000 trucs à dire.
Non. Mais je pense qu'on a même fait le tour de cette petite nouvelle.
Ouais. On passe donc à son adaptation.
Eh ben, allons-y.
C'est parti. L'adaptation de La dernière affaire d'Omné, réalisée donc par Rob Bowman, fait partie d'une série d'anthologies en 8 épisodes appelée Rêve et Cauchemar, qui est une série qui a adapté 8 nouvelles de Stephen King, la plupart issues de Rêve et Cauchemar, mais il y en a aussi de Tout est fatal et de Danse macabre, et qui a été diffusée entre le 12 juillet 2006 et le 6 août 2006 sur la chaîne TNT, c'est des épisodes d'entre 40 et 45 minutes en moyenne. Une partie de l'équipe de la série est la même à chaque épisode, par exemple les producteurs c'est toujours les mêmes, idem pour les directeurs photos, il y a Ben Nutt et John Stocks qui font 4 épisodes chacun, Les décorateurs avec Stewart Burnside et Otello Stolfo, 4 épisodes chacun encore une fois. La costumière, c'est Marion Boyce sur tous les épisodes. Les effets spéciaux, Jeff Little et Peter Stubbs sur tous les épisodes. Et les effets visuels, c'est Mark Van Buren sur tous les épisodes. Idem pour la musique, Jeff Beal pour l'ensemble de la série. C'est un compositeur qui a aussi travaillé sur Monk, House of Cards, Rome et pas mal d'autres films et séries. Donc il a quand même une belle carrière derrière lui à ce niveau-là.
Ouais.
Et il y a pas mal d'autres départements comme ça qui sont en commun à l'ensemble de la série. Par contre, les scénaristes et réalisateurs changent à quasiment chaque épisode. Il y a deux réalisateurs qui ont fait deux épisodes et deux scénaristes, et une scénariste qui en a fait deux, mais sinon ça change à chaque fois. La dernière affaire du Mnet, donc, c'est réalisé par Rob Bowman, qui est un réalisateur de télé qui s'est occupé de pas mal d'épisodes de Castle, Star Trek New Generation et X-Files. Et il est aussi producteur exécutif de Castle et de l'Agence Tourisque.
Ah,
qui était actif depuis un bon moment, hein, du coup, parce que ça remonte, l'Agence Tourisque.
Effectivement, oui. Oui, mais quand même un beau palmarès.
Oui, effectivement. Surtout X-Files, il en a vraiment fait pas mal, hein, je crois. Et c'est une série dont je sais que tu l'aimes beaucoup,
oui,
et que tu me recommandes depuis longtemps.
Bah, oui. Non, mais c'est vrai qu'avoir sur son CV X-Files et une série Star Trek, ça a quand même de la gueule, quoi.
Oui, clairement.
Et du New Generation, ça va, c'est pas la plus mauvaise, donc...
Je l'ai pas vu, New Generation.
C'est celle avec Jean-Luc Picard.
Et c'est un des deux réalisateurs qui a fait deux épisodes, puisqu'il a aussi réalisé le cinquième quart. Le scénario est d'April Smith, qui est donc la seule scénariste à avoir fait deux épisodes, puisqu'elle a aussi écrit celui de Chambre d'autopsie 4. J'ai hâte de le voir, parce que la nouvelle est très bonne, pour le coup. En dehors de cela, elle a pas une carrière monumentale, quelques trucs à la télévision. Son travail le plus majeur, ça semble être sur la série Lou Grant à la fin des années 70, que je ne connais pas du tout.
Moi non plus.
Mais elle est aussi romancière, elle a écrit plusieurs romans, donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas non plus hyper active à la télévision.
Oui, elle a d'autres facettes à son...
La photographie de cet épisode, c'est donc John Stocks, qui est principalement actif aussi à la télévision, et le production design Otello Stolfo, idem, principalement de la télé, et j'ai noté aucun crédit notable. Donc c'est une équipe très télévisuelle. À part pour l'acteur principal, qui joue donc les deux rôles principaux, il joue Humney et l'auteur, c'est William H. Macy, qui est aujourd'hui surtout connu, je pense, pour le rôle de Frank Gallagher dans Shameless.
Ouais.
Mais c'était aussi le docteur Morgan Stern dans Urgence. Alors, je vois pas du tout qui c'est comme personnage, mais j'ai peu regardé Urgence.
C'était pas un personnage majeur, si je me souviens bien.
Ah, parce qu'il a un paquet d'épisodes, quand même, de ce que j'ai vu.
Après, beaucoup d'acteurs d'Urgence ont des paquets d'épisodes sans que ça soit des personnages majeurs. Hein.
Oui, c'est pas faux. Et au cinéma, pour le coup, au cinéma, on l'a vu dans pas mal de films quand même assez cool. Est-ce que tu saurais en retrouver quelques-uns?
Mais pendant tout l'épisode, donc pendant toute l'adaptation de Mnet, je me disais, mais où est-ce que je l'ai vu? Alors, Shameless, oui, je voyais. Urgence, je voyais. Mais je savais que je l'avais vu dans d'autres trucs, alors éclaire ma lanterne, s'il te plaît.
Alors, il joue, par exemple, un des rôles principaux de Fargo. Il joue Jerry, donc celui qui est embarqué dans toute l'affaire sans se rendre compte de ce qui se passe, sans
mais
comprendre
oui.
ce qui se passe. Tu l'as aussi vu dans Boogie Nights, il joue Little Bill. C'est l'assistant réalisateur qui tue sa femme pendant une fête.
Oui, ça y est.
Alors, j'ai un peu
bien.
De spoiler Boogie Nights, mais c'est le meilleur moyen de dire qui c'est, quand même.
Ah, oui.
Et dans Magnolia, donc ça doit être un acteur que Anderson aime bien, il joue l'ancien gagnant du jeu télé pour gamin là.
Ah oui,
c'est celui
ouais.
qui veut, qui est dépressif et qui essaie de courtiser une femme pendant le film. Il est aussi dans Jurassic Park 3, bon qui est pas un film
oui,
génial,
voilà.
mais bon.
Quand je le voyais, je me disais dinosaure.
Et ben voilà, Jurassic Park 3.
voilà.
Ou Boogie Nights, tu pensais à Mark Wahlberg. mais donc du coup voilà un acteur qui a quand même très largement fait ses preuves déjà à l'époque, qui les a de nouveau faites aujourd'hui, et on y reviendra, je trouve qu'effectivement c'est un des attraits principaux de l'épisode.
Oui, il fait très très bien le boulot.
Les musiques sont assez cool, donc je répète le nom du compositeur, Jeff Beal. Là il adopte un style un peu jazzy, bah, caractéristique des films noirs de l'époque, mais avec un côté un peu rigolo, on sent bien que les musiques ont une dimension parodique. Il y a quelques pistes un peu plus atmosphériques, un peu plus dramatique, notamment pendant la scène de la mort de l'enfant de Landry, qui marche très bien, donc une BO vraiment sympa. Après, elle est pas non plus super longue, et je l'ai pas trouvée en dehors, donc j'aurais du mal à la juger précisément, mais elle fonctionne bien dans l'épisode.
Elle colle bien à ce qu'on a sous les yeux, ouais.
Au niveau de l'intrigue, l'épisode s'éloigne pas mal de la nouvelle de King sur plusieurs aspects, parce que, comme on l'a dit, la nouvelle s'ouvre directement sur la modification du monde d'Omné, il se rend compte qu'il y a quasiment personne dans les rues, et que les gens l'abandonnent un par un, tandis que dans l'épisode, On voit pendant facilement 10 minutes, je pense, sa vie quotidienne, qui est donc une grosse parodie de film noir, avec une cliente cliché qu'il drague, avec une fusillade cliché dans un resto. Et c'est plutôt drôle comme passage. Ça supprime le personnage du livreur de journaux, qui est pourtant presque le plus important dans la nouvelle de ce l'univers d'Omnay, parce que c'est ce qui va le plus lui manquer, et l'auteur lui dit que c'est son plus gros point faible, ce livreur de journaux. Ça change un peu l'histoire de Landry, parce que dans le téléfilm, son fils meurt différemment et sa femme ne s'est pas encore suicidée, alors que quand il vient dans la nouvelle, sa femme est déjà morte. Et à la fin, on voit un peu plus comment se comporte Omnay dans le monde réel et comment se comporte Landry dans le monde imaginaire. Donc il y a quand même pas mal de libertés qui sont prises par rapport à la nouvelle de base.
Mais des libertés qui apportent quelque chose, vraiment, qui, mis à part la disparition du livreur de journaux, toutes les nouveautés apportent plus qu'elles ne suppriment.
Oui. Alors on va y revenir, mais je trouve que c'est parfois un peu maladroit quand même. Oui. L'épisode est surtout apprécié pour la performance de William Macy, qui sera nommé pour un Emmy et un Screen Actor Guild Award du meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm, mais il recevra aucun des deux.
Ah, pour ce rôle-là ?
Ouais.
D'accord.
Et pour la photographie de John Stocks, qui reçoit un ASC Award et un Golden Tripod. Je ne connais pas ses prix, mais voilà, il les a reçus quand même, donc on est content pour lui. En dehors de ça, l'épisode fait pas partie des plus cités pour la série. Il est considéré ni comme un des meilleurs, ni comme un des pires de l'anthologie, donc on va dire que c'est déjà ça.
Spoiler, on est du même avis. Hein.
On est du même avis, je sais pas, vu qu'on n'a pas vu le reste de la mini-série. Donc.
Oui, c'est vrai.
J'espère que c'est pas le meilleur, effectivement.
Voilà.
Mais si c'est le pire... Ça va.
Oui, c'est pire, ça va, par contre.
Dites-moi ce qui se passe, là. Ah, tu commences à comprendre. Si je connais pas le nom de mon père, de ma mère ou de la première fille avec qui j'ai couché, c'est parce que vous-même, vous n'en savez rien. C'est ça? Tu chauffes. Vous ne possédez pas que cet immeuble. C'est tout que vous possédez. C'est chaud, chaud, chaud. Chaud comme un marron chaud. Tu vois le cadre sur le mur à gauche de la porte? Faites pas ça. Sur le mur à gauche de la porte est accrochée l'image de notre chef vénéré, mais toujours légèrement de travers, histoire de le voir un peu sous un autre angle. Vous êtes écrivain. Vous m'avez inventé.
Et donc justement, je pense qu'on va pouvoir en passer à nos avis, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. C'est un épisode avec une équipe assez limitée.
C'est ça. Moi, mon avis est quasiment le même que pour la nouvelle, quoi. C'était un moment sympathique passé devant ma télé. L'acteur est pour beaucoup, clairement, c'est le point fort. La musique aussi. Mais par contre, tout le reste, en fait, n'est pas nul. C'est bien, mais pas plus que ça. Voilà, la réalisation est bien, mais elle n'est pas extraordinaire. Alors, heureusement, elle n'est pas dégueulasse. Et c'est pareil pour tout le reste, en fait. Tout est bien, mais sans franchir la ligne du très bien. Mis à part pour le jeu d'acteur, où lui, par contre, il fait tout, quoi.
C'est un peu dommage, d'ailleurs, dans le cas de la réalisation, parce qu'elle aurait pu adopter quelque chose de plus caractéristique aussi des films noirs des années 50, ce qui aurait été l'équivalent cinématographique des romans de Chandler, en adoptant une photographie peut-être encore plus forcée sur les contrastes, en optant pour le noir et blanc. Moi, je pense carrément ça aurait pu être une bonne idée.
Ouais. Ça manque tout ça au niveau ambiance.
Moi, quand on me dit Chandler, j'imagine vraiment les années 30 de Los Angeles, et au cinéma, années 40, 50. Et du coup, la couleur me dérange un peu dans ce contexte-là, parce que c'est des films qui étaient quand même très souvent en noir et blanc. Donc ça, c'est un peu dommage qu'ils aient pas assumé ce parti pris, surtout que ça aurait fait un plus gros contraste avec le monde réel. Lui-même aurait pu s'étonner tout à coup de la couleur, ça aurait pu être rigolo.
Voilà. C'est vrai, ça aurait pu apporter ça. C'est dommage parce que l'épisode s'ouvre sur une scène vraiment chouette. Déjà, la première scène dans le bureau, ultra cliché de l'époque, où il est avec sa secrétaire et il batifole avec elle. Et ensuite, la scène de fusillade, qui elle aussi est géniale.
Oui, ça c'est vraiment très drôle. Au niveau de l'écriture, c'est très drôle. Là, pour le coup, Macy en fait des tonnes dans le jeu. Il joue vraiment le détective ultra cliché. Il y a aussi ce passage quand il sort de chez lui un peu plus tard et qu'il fait un espèce de monologue dans la rue. Et qu'après, il a l'air de se demander « Mais pourquoi j'ai dit ça ?»
Voilà. Et puis, il y a ce passage génial où, après avoir batifolé avec sa secrétaire et que l'autre l'ait engueulé, genre, il sort, sa secrétaire lui balance le chapeau, lui le rattrape, en regardant pas trop ce qui se passe, pouf, il en met directement sur sa tête.
Ouais, ça, dans l'écriture, c'est super bien géré. C'est juste qu'il aurait fallu une réalisation qui accompagne cet aspect-là.
C'est ça.
Il est assumé à tous les niveaux, même à la musique, mais pas à la réal.
Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai une sensation de... Mouais. Parce que les 10 premières minutes sont tellement chouettes elle met tellement de choses en place, et puis elle s'éloigne de la nouvelle pour apporter vraiment quelque chose, que bah, au final, le reste de l'épisode, bah, ça roule tout seul, quoi, mais sans avoir de véritable envolée.
Pour le coup, bah, si on fait l'épisode chronologiquement, je trouve qu'ensuite, le moment où il se rend compte que son monde commence à basculer est un peu trop court,
bah, avec
l'adaptation. Il y a la discussion avec le garçon d'ascenseur
voilà.
qui dure un peu, mais en soi, le garçon d'ascenseur, t'as du mal à te dire que c'est anormal, vu qu'il est juste... Enfin, il a un cancer, c'est bête à dire, mais un cancer, c'est pas quelque chose de particulièrement choquant. Tandis que s'il y avait eu l'accumulation de plusieurs trucs, il y avait aussi eu le livreur de journaux, où pour le coup, lui, c'est beaucoup plus improbable, il est aveugle, sa mère gagne au loto, elle peut lui payer une opération pour qu'il retrouve la vue. S'il y a tout qui s'accumule, là, ça devient déjà beaucoup plus improbable sur une seule journée.
C'est ça. Et puis du coup, dans l'adaptation, t'as pas toute la scène avec les deux peintres qui refont entièrement le couloir qui mène à son bureau.
Oui, ceux qui veulent tabasser, et justement, on comprend pas pourquoi il veut leur cogner dessus, et lui-même ne comprend pas.
Voilà. Et eux-mêmes sont perturbés, mais qu'est-ce qui lui arrive à lui, là? Il est complètement fou.
C'est parce qu'il supporte pas le changement, il n'aurait pas voté Hollande.
Ah non, ça c'est clair. Et puis après, bah, arrive la confrontation entre le créateur et sa création.
Qui là, pour le coup, fonctionne très bien.
Qui fonctionne bien, parce que on retrouve les scènes qui fonctionnaient déjà dans la nouvelle, donc à savoir la scène où il comprend que l'autre va tenter de l'attaquer, donc il décrit rapidement qu'il se sent pas bien.
Et puis encore une fois, bah, là, Macy joue bien les deux rôles, donc ça participe beaucoup.
De toute façon, clairement, le casting, lui en tête, ça fait tout.
Oui.
Mais après, même les autres acteurs sont pas mauvais hein, dans leur rôle.
C'est juste que les autres rôles sont quand même beaucoup plus secondaires.
Beaucoup plus effacés, voilà.
Ouais. Alors d'ailleurs, anecdote amusante que j'ai oublié de préciser, le générique de la série qui reprend tous les personnages de tous les épisodes a été tourné dans la maison de King.
Ah tiens, d'accord.
Donc si tu veux un jour acheter la maison de King, t'as le petit tour de l'immobilier.
C'est ça,
voilà.
Sympa. D'ailleurs, l'ouverture de l'épisode fait une très sympa transition avec la fin du générique.
Oui, je suis curieux de voir si ce sera comme ça pour tous les épisodes.
C'est exactement la question que je me suis posée, je me suis dit, est-ce que ça va être comme ça pour tous les épisodes? Parce que c'est vraiment chouette comme effet.
C'est vraiment bien fait, ouais.
C'est vraiment sympa comme effet. Par contre, je soulève un petit problème. C'est qu'au tout début de l'épisode, on nous indique Los Angeles 1938, et dans tout le reste de l'épisode, tout le monde se dit, en quelle année on est?
Le lecteur peut le savoir, à la limite, et pas le personnage.
Ben oui, mais dans ce cas-là, le créateur, lui, il devrait le savoir.
Oui, c'est pas faux, ça aurait dû être indiqué Los Angeles, années 30.
Voilà, alors que même lui, il dit, je sais pas, c'est un truc qui se passe dans les années 30-40.
Ouais, t'as pas tort, ça aurait dû être moins précis.
C'est quand même assez... pour moi, c'est quand même une incohérence, quoi.
Ouais, c'est pas faux, j'avais pas tilté.
C'est très étrange. Et alors que justement, cette temporalité n'est pas du tout présente dans la nouvelle. À aucun moment, c'est l'ambiance qui se dégage de la nouvelle et ce qui s'y passe et ce qu'on voit dans les journaux, tu comprends qu'on est dans les années 30-40.
La question est soulevée à un moment quand tu discutes avec l'auteur, la question de la date exacte, et l'auteur dit c'est normal que tu connaisses pas la date exacte.
Moi-même, moi je la sais pas. Ouais. Voilà. Mais du coup, ça, c'est bien amené et c'est bien respecté dans la nouvelle, mais je sais pas pourquoi ils ont voulu mettre cette indication temporelle au début de l'épisode qui, du coup, devient incohérente avec la suite.
Ouais, j'avais même pas le tilté, tu vois. Alors après, voilà, le gros ajout de l'adaptation, c'est la dernière partie. Donc je précise que vous entendrez peut-être de la pluie qui tombe en dehors.
Enfin, de la grêle même.
C'est de la grêle, je pense.
Oui, je pense, vu le bruit que ça faisait.
C'est possible. Donc voilà, c'est les aléas de la météo.
Et du direct.
Et du direct.
Du direct.
Ouais, du vachement direct. Je disais, comme la femme de Landry est plus ou moins vivante... Plus ou moins vivante... Comme la femme de Landry est encore vivante
l'adaptation. C'est plus ou moins vivante.
Ouais, c'est ça. Dans l'adaptation, du coup, elle a une aventure avec Omné et elle va vraiment se suicider, mais parce qu'elle va se rendre compte qu'Omné est un personnage de roman très volage et qu'elle peut pas se reposer sur lui. Et finalement, il y a plus ou moins une morale autour de soi, ça, comme quoi le changement qu'a fait Landry d'échanger sa place avec celle de son personnage est ce qui cause la mort de sa femme. Donc il y a une sorte de message sur le fait que se réfugier dans le monde de l'imaginaire ne marche pas forcément, n'est pas sain. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu, en tout cas.
Bah, et puis même dans l'adaptation, Landry dit carrément « Amni va dans mon monde pour essayer de faire en sorte que ma femme aille mieux ». Il lui-même, c'est la mission qu'il lui donne, quoi, c'est clairement dit. Donc vraiment, il y a la raison du changement de monde est clairement différente d'une version à l'autre, quoi.
Et puis, pour le coup, on voit plus aussi Landry dans le monde d'Omné, ce qu'on ne voit pas du tout dans la nouvelle.
Et ça, par contre, j'ai trouvé ça beaucoup plus sympa.
C'est sympa, mais le souci, c'est que c'est pas... En fait, toute cette partie aurait pu être très intéressante, dans un monde comme dans l'autre, mais c'est pas assez développé pour que ça m'emporte vraiment. Ça donne une scène un peu rigolote pour Landry, mais en soi, ça aurait pu... En fait, ça aurait pu donner un épisode entier autour de ce concept-là, assez rigolo. Et pour Omni, le souci, c'est que le comportement de la femme est vraiment écrite à la truelle.
Du coup,
parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Il y a 45 minutes pour faire un épisode complet. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et finalement, du coup, je ne crois pas réellement à sa réaction. Alors que, vu tout ce qu'elle a vécu, en soi, qu'elle se suicide, c'est pas si inattendu que ça, mais c'est juste mal amené.
C'est ça. Et puis, il y a aussi le fait que elle voit Omni débarquer, elle l'accepte en un claquement de doigts, quoi.
Ouais, c'est aussi.
C'est genre... D'accord, ok. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Genre, vous êtes une création de mon mari qui venait d'apparaître en sortant de la piscine, ok. Bah non. C'est très bizarre.
Donc voilà, c'est une idée intéressante, mais je me demande s'il aurait pas mieux valu la supprimer et plus se concentrer sur la découverte de son monde par Omni, de son monde qui se modifie, je veux dire. Et c'est garder juste la fin très rapide qu'avait prévu King. Trop de choses dans cet épisode.
C'est ça que moi que j'aurais préféré, oui, qu'on se concentre plus du coup de l'autre côté. Parce que même à un moment, il y a donc sa version réelle de sa secrétaire qui débarque et ça ne sert à rien, quoi.
Bon, oui, ça laisse juste supposer que le mari fantasmait sur une amie de sa femme.
Bah, qui vient nettoyer la piscine, quoi.
Ah oui, c'est la nettoyeuse de la piscine.
C'est la nettoyeuse de la piscine, quoi, donc bon...
Ah, je pense que l'idée, c'est que le mari l'auteur fantasmait sur la jeune...
Et donc il l'a inclus dans ses romans.
Voilà, je pense que c'est ça, l'idée.
Mais bon, c'est amené comme un cheveu sur la soupe, ça aussi.
Oui.
Enfin, comme beaucoup de choses de cette adaptation. Après, forcément, on est sur un format 45 minutes, donc c'est très léger pour adapter même une nouvelle.
Ah, c'est assez pour adapter une nouvelle, mais faut pas rajouter de trucs.
Bah, ou alors, ajouter des trucs intéressants.
Bah,
comme les 10 premières minutes, quoi.
Oui, c'est ça. Et encore une fois, la fin n'est pas inintéressante, elle est juste pas assez développée. Donc bon, voilà, c'est dommage, hein, parce qu'il y a au moins la tentative, au moins de pas juste coller à la lettre à ce qu'a fait King, donc la tentative, on peut la respecter. Mais...
Ah, la tentative est honorable, et surtout qu'ils n'ont pas fait quelque chose de nul.
Oui, c'est donc, ça, c'est loin d'être nul, hein, comme adaptation.
En fait, juste... et je pense que c'est pour ça qu'on est en mode « mouais », parce que c'est... On voit qu'il y a un vrai travail qui a été effectué sur l'adaptation, que ce travail n'est pas nul, mais que justement, du coup, clairement, ça aurait pu être mieux.
Ouais, surtout que l'ambiance se perd un peu, en fait, passé le changement de monde. J'aimerais que moi, j'ai décroché un peu, parce qu'il y avait plus cette ambiance film noir. J'ai eu plus de mal à me concentrer sur la dernière partie.
Ouais, clairement, oui. Les 20 premières minutes sont vraiment... Alors les 10 premières minutes sont top, les 10 qui suivent sont sympas, donc la confrontation avec l'auteur. Et dès qu'il y a le changement de monde, bah c'est sympa, mais sans plus, quoi.
Ça devient encore plus banal niveau... En fait, vu qu'il n'y a plus le côté parodique, il reste plus que la réalisation assez banale, et donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on fait? On passe à une petite scène représentative?
Bah, il nous reste que ça à faire, mon ami.
C'est parti. It's a Raymond Chandler evening at the end. Someone's dead, and I'm standing in my pocket, and I'm slowly... Alors, cas un peu particulier aujourd'hui pour la scène représentative, puisque nous avons choisi un extrait du téléfilm, mais qui n'est pas dans la nouvelle, puisque c'est un extrait tiré des premières minutes consacrées à la parodie de film noir, et donc c'est une fusillade dans un restaurant. C'est parti.
Alors ça va être très parlant.
Vous devez vous livrer, la police en tiendra compte.
Tu as raison, ils me feront griller à feu doux.
Quand ma jeune sœur s'était perdue et sombrée dans le péché, j'ai attendu en me disant que Dieu la protégerait, qu'elle comprendrait et que tout finirait par s'arranger. Vous savez quoi, monsieur Dunninger? Dieu doit être sorti déjeuner.
Va trouver la police et on ramassera le visage de ta frangine sur le pavé du trottoir pour en farcir les pâtés maison de ce resto.
Lâche-la, Dunninger.
Waouh. Le talentueux monsieur Omni.
Clyde, attention!
Bouge pas!
Voilà, donc cette scène, on vous conseille de la regarder parce que tous les épisodes de la série sont dispo sur YouTube, voilà, petit tip pour les anglophones. Donc cette scène, on l'a choisie parce que bah, c'est le moment où la parodie est la plus outrancière en fait. Ça se met à tirer dessus sans raison particulière.
Ah oui, c'est totalement gratuit.
C'est limite l'équivalent film noir d'une baston dans un album d'Astérix,
c'est
une
ça.
Baston du village. Il est pas frais, mon poisson.
C'est ça, avec un petit côté impasse mexicaine.
Oui.
Parce que tout le monde se lève et pointe une arme sur une autre personne. C'est très drôle.
Puis il en profite pour emballer une cliente encore à ce moment-là, en plus, je crois. Oui.
Et puis au final, lui se jette sous sa table et donc tout le monde tire. Et donc, alors qu'à la base, c'est lui qu'on veut buter, tout le monde s'entretue, quoi. Et lui n'a rien qui s'en sort, c'est extraordinaire comme séquence.
C'est toujours ça, il a un côté vraiment super-héros, intouchable, dans toute la première partie en tout cas.
C'est ça, l'aspect détective hard-boil avec un gros aspect comique est vraiment super bien mené, quoi.
Et c'est là que j'aurais vraiment bien aimé voir cette scène avec plus de travail de la photographie et en noir et blanc, parce que oui. Tout le brouillard serait vraiment fait vieux polar du genre.
Oui. Surtout que le décor du bar est vraiment top, quoi. On y croit vraiment.
Ah oui, là il est vraiment cool, c'est vraiment le truc d'époque.
Parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais le reste des décors sont plutôt lambda, alors que pourtant le décorateur, tu l'as évoqué tout à l'heure.
Ah, le bureau je le trouve chouette aussi.
Le bureau est chouette, mais c'est pas pour la même raison que le bar en fait, c'est parce qu'il s'inscrit vraiment dans cette thématique vieux polar de ces années-là, mais... Le reste, tout ce qui est baraque et tout ce qui est décor un peu plus urbain, bah c'est banal quoi.
Oui, c'est ça. Je sais pas ce qu'il aurait pu faire à la déco qui aurait été emblématique de ce genre de polar, parce que c'est vrai qu'on retient de ce genre de polar les décors de lieux publics, les bureaux de détectives obscurs.
C'est ça qui font très pulp.
C'est ça qui fait très pulp, c'est les maisons et compagnie de ce genre de truc, à quoi ça ressemblait.
Après, je pense que des beaux décors pulp comme ça, ça ne peut être aussi mis en avant qu'avec une belle réalisation, une belle photographie, et ouais. Malheureusement, c'est pas forcément ce qu'on a.
En fait, je viens de me faire la réflexion, mais ce à quoi il aurait fallu que ça ressemble visuellement, c'est à The Barber, des frères Coen,
ouais.
Qui est exactement dans cet esprit-là, et qui est un super film.
Oui, aussi, ouais.
Qu'est-ce qu'on fait? On passe au classement?
Je pense qu'on peut passer au classement.
C'est parti! Alors, nous allons commencer comme d'habitude par le classement de la nouvelle. Christopher, où en est-on ?
Alors, nous en sommes à un classement qui comporte 12 œuvres. Je vais vous citer les 3 premières et les 3 dernières, parce que maintenant ça commence à être assez conséquent pour ne pas toutes les citer, sinon c'est beaucoup trop long.
Ouais, ce sera dans la description. Hein.
Voilà, nous avons en tête de liste Cimetière, La Part des Ténèbres, et ensuite Cujo. Et nous terminons avec en 10e Bon Ménage, suivi des Enfants du Maïs, et enfin Le Dentier Claqueur. Où classer là-dedans la dernière affaire d'Omney? Alors, je regarde un petit peu. Alors, oserais-je dire que ça va au-dessus? Je pense que ça va au-dessus. C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est ni mauvais ni bon.
Pour moi...
Mais tu vois, là, ce classement, c'est un classement déjà qui comprend des œuvres qui, en fin de classement, sont ni mauvaises ni bonnes.
Ouais.
Il n'y a rien de mauvais, en fait, dans notre classement, pour l'instant.
Pour moi, quand même, je mettrais clairement au-dessus de Bon Ménage.
Ben oui, je suis d'accord, mais est-ce que ça va au-dessus de Dreamcatcher
ouais,
ou pas?
Ouais, Dreamcatcher va beaucoup nous embêter, je pense.
Parce que Dreamcatcher, oui, c'est nul, mais il y a plein de moments drôles dans Dreamcatcher.
Ouais, je pense que ça va en dessous de Dreamcatcher, mais pour des raisons un peu malsaines.
Pour des raisons de prout et de...
Ouais, c'est ça, parce qu'on a beau dire, on a beau se plaindre que Rick King soit obsédé de ça, bon, c'est un peu rigolo, l'épée, quand même.
Oh, bordel.
Donc, ouais, je le verrais bien en 10e place entre Dreamcatcher et Bon Ménage.
Mais vraiment, il y a... Enfin, ouais, je suis d'accord, mais vraiment, c'est pas loin d'être au-dessus de Dreamcatcher, et c'est même pas loin d'être au-dessus du Fléau, parce que j'ai même pris plus de plaisir, au final, de lire ça... Que dire ouais. Le Fléau, parce que le Fléau c'était beaucoup trop long. Quoi.
Au-dessus du Fléau, j'aurais du mal quand même, parce qu'il y a des travails psychologiques de certains persos et certains moments particulièrement réussis dans le Fléau, qui font que même si je me suis plus fait chier en lisant le Fléau et si j'aime pas le message du Fléau, je pense que c'est une œuvre que je place au-dessus quand même.
Ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire après, mais peut-être que ma lecture du Fléau est beaucoup trop proche encore dans ma mémoire, tu vois, pour que. Je puisse avoir une quelconque sympathie envers ça.
Si tu veux, on coupe la poire en deux et on le met entre le Fléau et Dreamcatcher.
Non, non, au-dessus de bon ménage, moi, ça me va. Mais de toute façon, ça ne pouvait pas être au-dessus de 1408, en tout cas. Ça, c'est...
Ah bah, clairement ça, pas. C'est évident, ouais. C'est largement inférieur à 1408.
Mais non, il prend la 10e place, maintenant, à la place de bon ménage, qui lui devient 11e, du coup. Et donc, maintenant, pour les films...
Alors, pour les films, nous avons un peu plus d'œuvres, puisqu'il y en a 14, avec... En tête, Carrie de Brian De Palma, suivi de Chambre 1408 de Michael Avstrom et de Cujo de Lewis Stieg. Et en queue de peloton, La Tour Sombre de Nicolas Jarcel, Les Démons du Maïs de Donald P. Borcher et en bon dernier, Le Fléau de Mick Garris.
Alors, et... Alors, au-dessus ou en dessous, Dreamcatcher? Ah, la bonne blague!
Pour moi, là, il y en a trois qui m'embêtent, qui sont assez proches, et où j'avais du mal à me décider, c'est les 9, 10, 11e places, donc Couple ouais. Modèle, Salem et Dreamcatcher, parce que pour moi, c'est mieux que La Tour Sombre.
Ouais, clairement, ouais. Ouais, parce que Salem et Couple Modèle, c'est... En fait, c'est dans la même, la même configuration, c'est des films qui sont pas mauvais, mais qui sont pas forcément bien non plus, quoi. C'est ouais. Du moyen.
C'est ça.
C'est du moyen, mais...
Et c'est les mêmes problèmes, c'est des films qui ont des problèmes de réalisation.
Ouais. Moi, pour moi, ça va quand même au-dessus de Salem. Rien que pour, l'acteur qui interprète les deux rôles.
Ouais.
Ça va au-dessus de Salem. Pour moi, rien que pour lui. Et puis même, même si elle est classique, la réalisation est supérieure à celle de Salem.
Bon, oh, elle était pas si catastrophique que ça, celle de Salem.
Non, c'est vrai, mais je sais pas, je trouve ça plus propre... Dans l'affaire d'Omni, moi, personnellement, je le mettrais entre Salem et Couple Modèle.
Moi, j'irais peut-être au-dessus de Couple Modèle pour... Bah, c'était bien joué, Couple Modèle, mais je trouve Macy, encore une fois, peut-être un peu meilleur.
Ouais.
Et puis, tout bêtement, il y a peut-être la différence de la musique, vu que celle de... On peut peut-être... Faire la différence là-dessus, c'est pas grand-chose, mais,
ouais,
celle
oui.
De...
Ouais, mais c'est les seuls
celle
éléments,
de Ney est un peu supérieure, donc même bien supérieure.
Oui, c'est vrai que Couple Modèle, sa musique, elle est assez oubliable.
Mmh. Après, je vais pas défendre à mort une place ou l'autre, parce que c'est... on est vraiment dans la zone OSEF, en fait. C'est des trucs que j'ai vus une fois et que je reverrai pas, je pense.
Voilà, c'est ça.
Et déjà, je les aurais pas vus s'il y avait, s'il y avait pas eu de podcast. C'est...
Voilà, c'est ça. Enfin, même La Tempête du Siècle, hein, c'est pas non plus...
Pour le coup, je place quand même La Tempête du Siècle au-dessus, moi. C'est, je trouve qu'il y a assez de bonnes idées dans La Tempête du Siècle. Même niveau réel, ça a beau avoir des faiblesses.
Comme tu veux. Je te laisse trancher. Mais oui, moi non plus, je me battrais pas. Que ça soit entre Salem ou Couple Modèle, ou entre Couple Modèle et Tempête du Siècle, y a pas grande différence, quoi.
Bon, allez, disons 9e place... Donc entre Couple Modèle et Tempête du Siècle.
Ok.
Ok, donc il prend la nouvelle 9e place. Donc voilà, un classement moyen dans les deux cas, mais c'est pas catastrophique. Hein. On passe un moment agréable, surtout que ça prend pas longtemps.
Oui, voilà, ni à voir ni à lire.
Voilà.
Bah, clairement, en une soirée, on peut faire les deux.
Oui, carrément, oui.
Voilà. Alors qu'en une soirée, vous ne pourrez pas lire Le Fléau... ni regarder son adaptation.
Non, et puis je vois pas pourquoi vous auriez envie de le faire, de toute façon.
Bah si, ça, le fléau challenge, tu vois.
Oui, c'est ça, mais bon, enfin... Faut arrêter avec les challenges débiles.
Oh là là.
Bon, bah nous, je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui.
Bah oui.
Et donc, bah, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, rappelle-nous.
@cinémaarchiviste pour toi. Et @augrédesbulles pour moi.
Ouais, sur Discord aussi, on vous mettra l'adresse dans la description. Vous pouvez aussi nous retrouver dans d'autres podcasts, Casse sur table et La guerre des clapes, consacrés pour le premier aux BD, comics, manga, et pour le deuxième au cinéma de manière plus générale.
C'est ça, le dernier épisode, à l'heure où vous écouterez ce vidéoclub, devrait être sorti, et sera sur L'Armée des Ombres.
Ouais, on disait déjà ça la dernière fois, donc cette fois-ci on va essayer de s'y tenir. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour Jesse, le roman et le film de Mike Flanagan. Et en attendant, rappelez-vous que...
Le vidéoclub de Castle Rock est ouvert
24h sur 24, 7 jours sur 7. À plus.
Salut.